Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en juillet 2025 et vous écoutez le débrief du festival des bretelles et des jeux, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et lors de ce festival, je n'étais pas seul, j'étais avec Flavien. Salut Flavien.
Salut Cyrus. Et on n'était même pas seuls nous deux. Il y avait aussi d'autres membres de la Proxy Team, passés et présents. Il y avait Dédé Chutes qui est à la fois passé et présent.
C'est vrai.
Et on a croisé Dany, il y avait Père Castor aussi.
Effectivement, bon, on a proposé à Dédé Chutes et Père Castor de participer, mais bon, ils ont décliné la proposition, manque de dispo ou
ils avaient déjà oublié les jeux qu'ils avaient essayés.
Ouais, ouais. ils ont décidé qu'ils n'avaient pas joué à assez de jeux, alors que bon, on va pas parler de tous les jeux auxquels on a pu jouer pendant ce festival. Bah écoute, ouais, et je te remercie de m'avoir reçu.
Bah,
du coup,
avec plaisir.
Parce que Débrisé les des jeux, c'est un festival qui a lieu à Strasbourg et tu habites à Strasbourg, voilà. Maintenant tout le monde le sait.
Exact, c'était 10 minutes à pied de chez moi, donc c'était très bien. Et puis bon, on expliquera un petit peu le contexte qui a fait que comment on y était, etc. Et puis ce que c'est que des bretzels et des jeux, parce que vous avez peut-être oublié depuis. Mais est-ce qu'on remercierait pas d'abord notre sponsor?
Bah on va faire ça, ouais. Mmh.
Donc on remercie la Caverne du Gobelin qui sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Mais c'est aussi un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com, sachant que je crois qu'à l'heure où on parle, il y a des tentatives de nouveaux sites. Je ne sais pas si c'est exactement abouti pour l'instant, mais en tout cas, il y a volonté de travailler un peu pour rafraîchir tout ça, si j'ai bien compris.
Il y a un site ouais, qui, du coup, maintenant est sur cavernedugobelin.fr. Alors, voilà, il va peut-être falloir qu'on change tous nos conducteurs. Et qui a l'air, bah écoute, je sais pas, en tout cas, il y a un module de recherche, il y a des fiches de jeux et tout. J'ai pas essayé de faire une commande, hein, parce que j'en ai fait une déjà il y a pas longtemps, mais ça a l'air de fonctionner. Là, il y a encore des modules qui ont l'air de pas vraiment marcher, mais il y en a qui fonctionnent. Bref, voilà, puis on va remercier aussi nos donateurs et donatrices. Alors, on n'a pas une liste exhaustive là à vous proposer, mais ils se reconnaîtront, et voilà, merci à elles et à eux. Bah on va démarrer cette émission parce qu'on va peut-être pas faire un retour sur les commentaires du débrisel et des jeux précédents parce que c'était il y a longtemps, n'est-ce pas?
Ouais, peut-être pas. Ouais. Je te propose que justement on revienne un peu sur ce qui s'est passé depuis le dernier épisode et qu'on fasse un petit débrief général de ce que c'est que débrisel et des jeux.
Alors, des bretelles et des jeux 2025. Donc, le festival a lieu les 7 et 8 juin 2025. Donc, c'était, c'est la même période que les fois précédentes, je crois. C'était début juin aussi,
ouais,
il me semble.
Ouais, à peu près.
Et donc, un festival qui renaît, puisque la dernière fois, c'était en 2019.
Et oui, ça date. On était déjà sur place, hein, d'ailleurs, les fois précédentes. Alors, la première édition, c'était 2015. Et le festival a fêté ses 10 ans cette année. Pas sa 10e édition, du coup, vous le comprenez. Mais en tout cas, c'est 10 ans. Moi, j'étais déjà en 2015 en animation et tout, en tant que bénévole. Et je crois qu'avec Proxy Jeux, on y était à partir de 2016 ou 2017. Sachant que c'est là qu'on a un peu inauguré notre format d'interview que maintenant, il y a à Cannes, avec une table et tout, pour recevoir des personnes. Ça, c'était les premières éditions. La dernière, et peut-être l'avant-dernière aussi, je sais plus, c'est Dédé Chutes qui avait pris les choses en main pour changer un peu de format, faire plus un format plus animation, si je dis pas de bêtises.
Ouais, sur le dernier.
Et donc, effectivement, 2019, parce que en 2020, il y a eu le Covid, donc pas d'édition 2020, pas d'édition 2021 non plus. Faut savoir que ensuite, donc c'était à l'époque à la salle de la Bourse, qui est un lieu relativement central. Alors, c'est pas tout à fait central comme la place Kléber, mais c'est quand même assez central encore. C'est depuis devenu un centre de vaccination. Puis, il y a eu ensuite, c'est devenu un centre d'accueil pour des réfugiés. Donc, il y avait cette question-là de lieu qui se posait. Finalement, cette année, et puis d'organisation, parce que derrière, il y a un peu les mêmes personnes à l'époque. Des personnes de Philibert, même si des bretzels et des jeux et une association à côté. Il y a un peu les mêmes personnes. Il y a Gauthier, notamment, qui est toujours derrière l'organisation, rejoint par Simon. C'est des gens que... Enfin, Gauthier, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec lui, mais Simon, un peu moins. Mais donc, il y avait un petit peu des couacs d'orga, le choix des lieux, etc., qui fait que ça n'a pas été renouvelé depuis 2019, quoi. Et puis même depuis 2022, où certains festivals ont pu vraiment reprendre de manière plus régulière, c'était pas le cas de des bretzels et des jeux. Mais voilà, là c'est revenu. Et ils ont fait une communication assez étonnante, puisque je crois que c'était en hommage à des communications précédentes. ils ont dit que ça revenait le 1er avril.
Ouais, c'est ça, ils ont fait l'annonce le 1er avril. Donc évidemment, on s'est dit, oh, ben, donc, ils ont beaucoup d'humour. Mais c'était vrai. C'était... Parce que, ouais.
C'est un peu un running gag, le retour qui revient pas, le festival qui revient pas, l'espoir un peu des gens du coin qui disent, mais ça revient quand et tout, quand même, Strasbourg, quoi. Enfin, la boutique où il y a Philibert. Ouais, ouais. Tu te dis, waouh, c'est quand même une grosse ville française et qui n'a pas son festival, quoi. Et donc, effectivement, les gens ont dit, c'est bon, on a compris que vous ne reviendrez pas. Finalement, si. Finalement, voilà. Si.
La prise à contre-pied, incroyable.
Ouais, c'était un peu désamorcé dès les jours suivants, puisqu'on fait une communication par jour. Donc, dès le 2 avril, les gens ont compris que c'était pas une blague. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est la proximité de la date d'annonce par rapport à la date du festival, je trouve.
Ouais, ouais, ça fait une organisation quand même un peu cavalière, quoi. Ça s'est quand même précipité. Hein. Puis, c'est vrai qu'il y a des festivals, on sait d'une année sur l'autre, où c'est au moins annoncé 6 mois à l'avance. Là, pour un festival, quand même. C'était pas un très gros festival, mais c'est un festival dans une grande ville, effectivement, avec de l'attente. Et du coup, on aurait pu imaginer une com plus anticipée.
Ouais, moi, j'avoue que quand j'ai vu la com, je pensais que ce serait plutôt deuxième semestre. Je me doutais que ce serait pas déjà en même temps que PEL, parce qu'ils ont toujours fait un peu gaffe à éviter les proximités avec les gros événements.
C'est logique.
Parce que des Bretzel et des Jeux, à la fin, ça a jamais été un festival majeur francophone. Mais on était quand même pas loin des 10 000 entrées, je crois, sur les dernières éditions. Peut-être 7 000 par là. C'est pas presque 10 000, hein. 7 000, c'est plus proche des 5 000 en vrai. Quand même pas mal de monde, donc tu pourrais te dire quand même que pour espérer monter le truc et tout, tu anticipes un peu. Moi, j'avoue que j'ai aussi été très surpris quand ils ont dit « Ah bah oui, bah ce sera en juin. » Ah, ok.
Oui, parce qu'en plus, ils ont dit « Oui, ce sera... » Enfin, quand ils ont commencé à parler de la période à laquelle ça aurait lieu, ils n'ont pas annoncé la date, quoi. Tu vois, enfin, c'est un peu poussif, quoi, comme... Alors, bon, je me dis que c'est pour faire des effets d'annonce, un peu, créer de l'attente, mais bon, je veux dire, à partir du moment où tu sais que ça va avoir lieu en juin, machin, tu préfères autant quelle est ta date plutôt que d'attendre de savoir quand est-ce que c'est exactement, quoi. Je suis pas sûr que ça ait des effets très positifs, quoi.
Et après, nous, on n'est pas de ce côté-là, mais c'est vrai que vis-à-vis, par contre, des relations éditeurs, des personnes qui seraient présentes, qui auraient des stands et tout, bah, ça fait aussi un timing assez serré de leur point de vue de professionnel, je pense. Bon, y avait quand même pas mal d'éditeurs qui étaient présents, finalement. Je pense que du fait des antécédents de l'événement, du fait que la personne qui organise derrière, aujourd'hui, Gauthier est chez Yellow, donc au niveau réseau, t'as pas de réseau à te construire, en vrai. Enfin, après, quand c'était chez Philibert, pareil, t'as le réseau de base. Mais ouais, moi, j'avoue que ça m'a vraiment surpris, cette proximité, et... Je me disais, c'est un peu stupide.
Bon, voilà, en tout cas, alors on n'a pas les chiffres, du coup, ils n'ont pas annoncé combien de personnes avaient été reçues sur le festival. Pourtant, il me semble qu'il devait y avoir quelqu'un qui comptait. Enfin, il y avait bien quelqu'un à l'entrée. Après, est-ce qu'il y avait un comptage? Ça, je sais pas trop. T'as pas l'info non plus?
Non, j'ai même pas eu. Comme je suis à Strasbourg, des fois je vois les gens de Philibert et tout. Je t'avoue que les seules fois où je les ai vus, déjà c'est pas Gauthier aujourd'hui est plus chez Philibert, donc c'est pas leur gars même qui est chez Philibert. Donc j'ai pas pu avoir les infos. Eux, ils les ont pas communiqués non plus officiellement. Donc j'ai pas cette info là. J'ai juste eu quand je passais chez Philibert à un moment quelqu'un qui m'a dit que ouais, il y a eu quand même pas mal de ventes par rapport à un week-end classique. Tu vois, c'était assez important quand même les ventes qu'il y a eu à la boutique. Donc c'est un peu la seule info que j'ai. J'en profite pour remercier la boutique, oui, parce qu'il y avait donc une boutique Philibert sur place, même si c'est donc des Bretzel et des Jeux qui organisent le truc. Il y avait dans une des deux grandes salles une boutique avec principalement les jeux qui étaient disponibles sur l'événement.
Oui, c'était ça.
Et je les remercie parce que je vais revenir dessus, mais moi j'avais une caisse de jeux en import que j'avais emmené pour les faire essayer. Et pendant mes pauses, j'ai pu leur ramener, ils l'ont gardé derrière et tout, donc merci aux équipes.
Ton précieux.
on peut peut-être parler de notre ressenti à nous. Je te laisse si tu veux commencer, peut-être déjà par rapport à la fréquentation, mais même de manière générale sur l'événement, quoi.
Ouais, moi j'ai apprécié le lieu déjà. J'ai beaucoup apprécié le lieu, c'est un lieu atypique, c'est un tiers-lieu. Tu t'as cité où c'était exactement le...
Je crois pas, mais c'est Phare Citadelle. Phare comme le phare en Bretagne, hein, pas le gâteau, hein, le phare, le bâtiment. Oui. Parce qu'il y a plusieurs phares en Bretagne. Mais donc ouais, Phare Citadelle, qui est un événement, un lieu associatif. Alors, j'ai pas les détails exactement de comment ça fonctionne et tout, mais où il y a souvent, moi j'y étais déjà allé avant. C'est surtout ouvert, disons, du printemps à l'automne. Et il y a pas mal d'événements, genre des friperies, des concerts, des trucs assez, tu vois, des trucs de brasseurs indépendants, des trucs comme ça, un petit peu pas underground, c'est un petit peu fort comme mot, mais en tout cas un peu alternatif, je dirais, comme lieu.
Ouais, et du coup, ça donnait un cachet assez cool au festival. C'est vraiment, en fait, c'est des vieux hangars sur lesquels il devait y avoir des livraisons via le canal ou je sais pas trop quoi avant. Il faut imaginer ces grandes portes en fer qu'il faut lever avec une grande chaîne. Il y avait vraiment encore ce mécanisme-là pour activer les grandes portes en fer. Ouais, ça fait vraiment un lieu très très atypique. Et autour de ça, donc il y avait des tentes qui avaient été installées. Alors malheureusement, il n'a pas fait super beau, en particulier le premier jour. Il avait beaucoup plu essentiellement avant, peut-être pas tant pendant, mais avant. Du coup, c'était un peu gadoueux, quoi. C'était pas ouf. Il y a eu beaucoup de vent, en particulier le samedi, je crois. Du coup, bah on sait que c'est pas des conditions terribles pour jouer à l'extérieur. Bon, même avec les tonnelles et tout ça, ils ont réussi à pas trop mal gérer, mais voilà. Donc c'est un festival qui donc avait une partie en intérieur, une partie en extérieur. Les gens savaient, j'imagine, qu'il y avait une grande partie en extérieur, donc ça n'a pas dû attirer énormément. Je trouvais que c'était quand même, il y avait du monde, mais c'était pas blindé, quoi, vraiment loin de là. C'est-à-dire qu'on arrivait quand même à trouver de la place pour jouer. C'était plutôt agréable de ce côté-là. Il y avait plutôt de l'espace. Les éditeurs n'étaient pas les uns sur les autres. Ça manquait peut-être un peu de démarcation entre les éditeurs, mais bon, ça à la limite c'est plus une problématique d'éditeur que vraiment pour les joueurs-joueuses, parce que bon, à la limite, quoi, toi tu viens, tu t'installes une table, juste le jeu-là il t'a plu, tu t'en fous de savoir si c'est l'éditeur X ou Y. Non mais voilà, plutôt, en tout cas, un bon ressenti. Moi j'ai vraiment apprécié le lieu, quoi. J'ai vraiment trouvé ça assez cool. Il y avait vraiment un côté...
Des vieux canapés, tu vois, aussi dans une des salles, vraiment, ouais. Des trucs en cuir un peu défoncés... voilà, où tu te poses, et puis ouais, il y a un espace extérieur aussi dont on n'a pas trop profité parce que du fait du temps, mais sinon ouais, t'as tout un espace extérieur qui passe effectivement juste à côté du canal, qui va, je crois, jusque vers Rive Étoile, pour ceux qui connaissent, et ouais, où tu peux te poser, et moi, pour y avoir été plusieurs fois, c'est vrai que l'espace extérieur est assez cool. Là, tu vois, c'est dommage qu'il y ait eu cette météo-là, évidemment, pour même pour les éditeurs, où il y a eu quand même des grosses flaques et tout, ils ont dû parfois fermer des bouts de tonnelles. Mais sinon, tu vois, il y avait un espace jeu libre aussi. C'est facile de prendre un jeu, d'aller se poser dehors, sur une table et de jouer. Là, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop l'occasion. Mais c'est vrai que ouais, ça caillait un petit peu, je t'avoue. Le premier jour, je suis venu, je crois, en t-shirt. Le lendemain, j'ai pris mon pull quand même, parce que c'est vrai que c'est des grands lieux qui sont pas spécialement chauffés. C'est effectivement un côté un peu hangar, et en plus, il laissait des fois les portes ouvertes, et donc quand t'étais en plein milieu, tu sentais tout le vent qui te passait à travers le corps. C'était assez.
Et puis il y avait quand même des bretzels à volonté. Bon, c'était des mini bretzels, hein, les petits, mais pour le clin d'œil quand même au nom du festival, ils en mettaient sur les tables, plutôt sympa.
Ouais, c'était rigolo, ouais, parce que tu reviens et tu dis, mais on a des bretzels, tiens, qu'est-ce que c'est, pourquoi ? Et ouais, c'était effectivement les équipes qui mettaient ça sur les tables et à l'accueil, c'était cool. Mais ouais, moi je te rejoins sur le lieu, bon, que je connaissais déjà, mais c'est vrai que ça change en fait pas mal de trucs, où, tu vois, des fois, on peut avoir tendance à trouver que ça devient un peu too much, ou ça peut être un peu plus haut que son cul ou quoi, et là, t'as vraiment l'esprit un peu roots, c'est alternatif, qui habite un peu aussi le monde du jeu de société, et qui accueille un public aussi un peu comme ça. Le lieu a souvent un public un peu alternatif qui vient, etc. Et ouais, il y a un côté un peu qui correspond pas en fait avec la professionnalisation qu'on pense et qu'on met parfois en avant du milieu, tu vois, où on dit oui, ça devient machin, un truc professionnel et tout. Là, il y avait un truc passion, hobby, un peu à côté, et je trouve que le lieu correspond bien un peu à cette image-là, et l'ambiance que ça crée correspondait un petit peu à ça, et moi je sais que c'est aussi une ambiance que j'aime bien, un peu plus que les trucs où effectivement, tu te dis, c'est un événement incroyable, très solennel, et où vraiment, c'est le centre d'attention du monde du jeu de société. Là, c'est plus, vas-y, on fait un truc dans un hangar, et c'est cool, quoi.
Ouais, c'est assez loin des bling-bling de Cannes, quoi, on va dire. C'est un peu aux antipodes.
Et moi, c'est vrai que c'est une ambiance qui me correspond plus, au-delà du fait que c'est aussi, tu l'as dit, mais à taille plus humaine. C'est vrai qu'au niveau de la fréquentation, le matin, franchement, il y avait très peu de monde. Ça ouvrait à 10h et jusque vers midi, 13h. Alors, la météo aidait pas. Il y avait vraiment... Par contre, l'après-midi, ça se remplissait un petit peu plus. Mais jamais au point, effectivement, d'être invivable, quoi. C'est ce que tu as dit, il y avait de l'espace pour circuler, pour... Si tu jouais à un truc, t'étais pas en même temps sur les genoux de la table d'à côté. Donc, assez agréable, quoi. Après... Voilà, ça se destine peut-être pas, tu vois, à atteindre des chiffres à la PEL et tout, mais en même temps, moi, c'est des trucs qui me correspondent plutôt en termes de fréquentation. Donc content que ça soit revenu. Bah,
disons
quoi.
Qu'à ce stade, ça fait pas office de festival national. Tu vois, c'est vraiment loin d'un Cannes, d'un PEL. Ça vaut pas d'aller faire des centaines de kilomètres pour y aller. Quoi. Oui, ou d'un Ludinor. J'y suis jamais allé, mais bon, je veux bien le croire. Ou Toulouse, l'Alchimie. Pareil, j'y suis jamais allé, mais j'imagine que c'est vraiment c'est conséquent. Ça vaut pas ces festivals-là en variété de jeux auxquels tu peux jouer, d'éditeurs, de tout ça. Mais à une échelle régionale, ça vaut le déplacement. Quoi.
Ouais, et puis après, ça dépend en fait le scope qu'ils veulent donner au truc, parce que s'ils ont pas l'ambition effectivement d'aller taper une Alchimie ou quoi, en fait, il n'y a pas besoin de s'emmerder à plus. Alors effectivement, on se posera la question des tables qui seront jouées, tu vois, et des éditeurs qui seront présents, parce que pour les éditeurs, il y a une question de rentabilité. Donc à un moment, si c'est un tout petit festival, t'as beau être le pote à Gauthier, tu vas peut-être pas envoyer du monde et payer du monde à faire tes animations pour un festival à si petite échelle. Après, ce qui est bien, et je vais pouvoir peut-être faire la transition, c'est qu'il y a d'autres moyens de faire des événements et d'animer un festival que de faire venir l'industrie du monde du jeu de société. Et, par exemple, moi, pourquoi est-ce qu'on était... Alors, je pense que j'y serais de toute façon allé en tant que joueur et tout. Faut savoir qu'on avait une table où il y avait le roll-up proxy jeu et tout, on n'y était pas vraiment en tant que proxy jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'interview, on n'a pas fait d'animation. C'est juste que de mon côté, à titre personnel, j'ai proposé à l'orga de, vous le savez un peu, j'en parle sur cette antenne, mais que j'aime bien faire des jeux, commander des jeux en import, etc., du Tokyo Game Market, ou que ce soit aux États-Unis ou quoi. Et donc je leur ai dit, si vous voulez, moi j'ai tous ces jeux. C'est des jeux un peu exclusifs que les gens, qui parfois sortiront en français, parfois pas, qui sont un peu bizarres, qui sont curieux, qui sont difficiles à se procurer. Si vous voulez, si vous avez une table, moi je peux les animer. Et donc de base, ils étaient ok. Ils se sont dit, ah oui, c'est enfin, l'idée de trucs un peu exclusifs, tu vois, genre vous ne pourrez jouer à ces jeux-là nulle part publiquement ailleurs que sur des bretzel et des jeux un petit peu, tu vois. Et donc, ça l'essai s'est transformé, ils attendaient de voir s'il y avait de la place. Et donc, moi, j'avais effectivement deux tables finalement où j'avais mes jeux en import et où je pouvais les animer moyennant des pauses, hein, j'étais assez libre. C'était une expérience assez cool, moi, j'aime pas trop, j'ai déjà animé pour un Cocktail Games lors du premier des bretzel et des jeux. Et là, c'est vraiment différent parce que c'est mes jeux à moi et tout, et en fait j'ai aucune, contrairement aux éditeurs, aucun besoin de rentabilité, tu vois, j'ai pas besoin de faire du rendement et qu'un maximum de gens jouent aux jeux que je présente, parce qu'à un moment il faut que je les vende. Moi non, en fait c'est juste le partage et la curiosité, et du coup si les gens veulent enchaîner des parties, je peux, des fois je me posais avec eux parce qu'il manquait un joueur ou une joueuse, enfin un joueur en l'occurrence si c'était moi qui me posais avec eux, et vraiment moi j'ai trouvé ça super. En plus tu vois, j'avais ramené des trucs et tout, tu vois les gens s'arrêter, regarder, être intrigués, et donc en fait c'est pas quelque chose qui est souvent proposé sur les festivals. Et en fait, c'est un moyen aussi de partager la passion qu'on a du jeu de société, tu vois, et de se sortir un peu de l'industrie et du côté professionnel. Alors même si au niveau du business model, c'est plus délicat, parce que là, une partie des revenus vient des tables éditeurs qui sont payées. Moi, j'avais pas payé ma table. Mais tu vois, il y aurait ça, et je crois que j'en ai déjà aussi parlé sur cette antenne, mais ou bien de mon côté, mais tu vois, un truc où... un truc sortant le grand jeu, tu vois, où t'as vraiment des classiques, en fait, des jeux qui ont marqué l'industrie du jeu, le monde du jeu de société. C'est pas si fréquent qu'il y ait des espaces comme ça. Il y a souvent des tables de jeux libres, mais tu vois, un truc plus à vocation un peu patrimoniale, et où t'es là et tu dis, ok, là, il y a eu le Hall of Fame BGG, tu sais, qui a été fait cette année. Là, on va mettre les 25 jeux du Hall of Fame BGG. Et je trouve ça trop cool, moi, comme que ce soit partagé éventuellement par des bénévoles ou quoi, mais c'est un moyen de proposer des jeux autrement et de pas... avoir besoin qu'il y ait trop de tables, d'éditeurs, etc. De se détacher un peu de ce besoin-là, quoi. Et de faire des trucs à plus petite échelle, effectivement. Mais... ce qui existe beaucoup du côté américain, du côté des conventions, en fait. Hein. Les conventions, comme ça, c'est des trucs... Alors, je parle pas de la Gen Con, hein, mais des trucs à plus petite échelle, tu vois, des trucs spéciaux de jeux de plis ou de jeux de historiques, des choses comme ça, quoi. Et donc, super expérience de mon côté. J'ai vraiment trouvé ça cool, les gens étaient curieux... À titre d'anecdote, les jeux les plus joués ont été Nuts à Gogo, au plus grand plaisir de Dédé Schutz, puisque ça vaut son pesant de cacahuètes comme jeu. My Favorite Things et Harvest. Des petits jeux, c'était rigolo de voir pourquoi les gens venaient, comment ils avaient entendu parfois parler d'un jeu ou quoi. Vraiment, vraiment une bonne expérience de mon côté. Et donc, on en a profité, même si c'était à titre perso, pour mettre quand même le roll-up proxy jeu, parce que... y a pas de mauvaise pub.
Tant qu'à faire. Voilà. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre du coup sur le festival avant de passer à la partie jeu. Moi, je voulais dire quand même qu'il y avait un critère quand même qui me fait me déplacer dans des festivals, c'est que les bières étaient vraiment super bonnes et il y avait du choix à la tireuse. Voilà. Après, bon, il y avait pas mal d'animations. Ils avaient organisé des tournois. Il y avait une tombola avec pas mal de jeux. Alors, bon, il y avait des trucs un peu. Des trucs hors des stockages, parmi les lots, puis, mais il y avait aussi des lots plus intéressants.
Ouais, il y avait Shamans et tout, il y avait quand même des bons jeux.
Parfois. Ouais, bah, il y a des bons jeux en déstockage.
Ouais, c'est vrai.
Mais bon, c'est de la tombola après, tu sais pas ce que tu vas gagner. Hein. Si tu gagnes quelque chose, évidemment. Et du coup, bah, comme, comme ils sont quand même un peu en cheville avec Philibert, il y a Maxime, c'est ça, hein, qui est venu pour faire la chaîne Twitch de Philibert. Quelques VIP quand même qui étaient présents. Il y avait. Attends, je suis en train de rechercher qui était là. Il y avait Maxime Rambourg.
Ouais, il y a eu quelques dédicaces effectivement. Maxime Rambourg, Théo Rivière. Il y a eu les locaux de l'étape. Hein, Il y avait au moins Guillaume Montiage. Je crois pas avoir vu Jacques Barriot. Mais Guillaume Montiage était là. Il y a eu un monde de jeu aussi qui est passé. Alors, je les ai pas vus faire d'enregistrement particulier sur l'événement, tu vois. Plus peut-être un feedback après coup.
Non, c'est
des
vrai,
auteurs. Ouais. Il y a eu donc Élodie Clément aussi qui était là également. Donc plusieurs personnes comme ça qui étaient là pour des dédicaces. Effectivement, les tournois, il y avait cette grande tente là. C'est rigolo parce que dans cet espace précisément, il y avait une autre ambiance. Tu vois, un peu tamisé, machin, avec des petites lumières qui tranchaient un peu avec le côté plus roots du reste du hangar.
C'est vrai. D'ailleurs, je pense que ça devait même manquer de lumière, cet espace, hein, pour des tournois. Ça devait pas être très très confortable.
T'es sûr que c'est un éphémère, ton truc?
Enfin bon, voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter sur cette partie-là.
Non, écoute, pour moi, c'est bon, donc on peut passer au jeu.
Alors, au niveau des jeux, Flavien, est-ce que tu pourrais démarrer peut-être avec un des premiers jeux auxquels tu as joué et dont tu voulais nous parler?
Ouais, bien sûr, ouais. Donc, j'ai aussi donc, des fois joué à mes jeux en import, mais quand même, comme j'avais des pauses, et là-dessus aussi, c'est très confortable. C'est-à-dire, à un moment, tu vois, tu vas aller manger, bon, je prends ma pause, je ramène ma caisse là-bas, et puis, je suis pas salarié en fait, donc j'avais pas besoin d'être là à des horaires particuliers. Et donc, effectivement, j'ai quand même pu faire quelques jeux avec vous. Donc, Tulico, notamment. Tulico,
ouais.
Très très belle boîte, hein, parce qu'en plus elle était vraiment genre, j'avais ma table et de l'autre côté du couloir, si on peut appeler ça un couloir, je voyais Tulico pendant tout le week-end, avec sa couve à la Flip 7, un peu shiny là, illustrée par Maud Chalmel. Vraiment, en plus, c'est vraiment genre toute la couve qui est shiny et tout, et c'est pas juste des valeurs et tout, il y a vraiment un petit renard et tout brille. Vraiment, je pense que c'est ça qui t'a attiré, parce que c'est toi qui nous a embarqué dans ce traquenard.
Ouais, j'avoue. Bah, écoute, il y avait quand même des nouveautés. Je me dis, bon, allez, vas-y, c'est l'occasion, on va essayer. Il y avait plein de tables libres, enfin plein. La table, il y en avait une de celui-là. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait pas mal de places libres. Donc, tant qu'à faire, s'il faut attendre ne serait-ce que 5 minutes pour essayer un nouveau jeu, pour pouvoir en parler à l'antenne en plus, hein, en faire profiter tout le monde.
Et puis peut-être que ce serait un prochain jeu du mois et tout. Bon, en l'occurrence,
oui, bien sûr. Mais je rappelle que c'est toujours pour ça qu'on va jouer à plein de nouveaux jeux. On est toujours à la recherche de la pépite, du truc qui va nous faire vraiment vibrer. On sait que dans le tas, dans tout ce qu'on essaye, il y en a pas mal à jeter, quoi.
Ouais. Et là, donc, jeu de Nicolas Mellet et Jérôme Soleil. Ce sera chez Studio H. Ce sera parce que c'est pas sorti encore. Ça devrait sortir plus tard dans l'année. A priori, c'est annoncé pour 2025. Mais nous, ça devait être une boîte de pré-prod, probablement, parce que le matos était quand même relativement finalisé.
Ah oui, ça avait l'air fini. Hein.
Et bon, bah, on est dans du prise post-course, c'est ça? C'est le PPC?
C'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est ça. C'est un PPC, ouais.
Le deuxième dans l'année, après Inc, non? Je crois. Hein.
Après Inc, exactement, ouais. Et mais après, oui, de l'année. Ouais.
Et donc, on va récupérer des tuiles qu'on va poser sur notre petit plateau selon certaines contraintes de symboles. Pour les prendre, on va faire un petit truc de truc coulissant. Et pourquoi on va les placer? C'est pour faire des objectifs. Il y a plein de petites manières de marquer des points, dès qu'ils sont propres à nous, dès que tout le monde va pouvoir aller sur ces critères-là. Bon. Et la course, pourquoi? Parce qu'on a des petits tokens qu'on va essayer de placer sur notre petite planche avant les autres, et pour les placer il va falloir justement optimiser le placement de ces tuiles, soit en faisant des territoires de même type, de même couleur, très belle couleur, hein, et c'est des espèces de forêts. Là-dessus, le travail de Maud Chalmel est vraiment assez cool. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, parce qu'en termes de sensations, vous aurez déjà vécu ça des centaines de fois. Enfin, c'est très très lambda. Les systèmes de pose est classique, les systèmes d'objectifs, il n'y a rien à en retirer, le système de prise non plus. On a quand même fait une petite variante, et en vrai, ça pourrait être rigolo qu'il y ait un truc comme ça, tu vois. Il y a Père Castor qui nous a rejoint en fait pendant la partie. On avait genre fait trois tours. Ouais. On lui a dit, vas-y, tu peux venir, mais fais tes trois tours tout de suite. Et en vrai, du coup, il aurait pu se créer des opportunités de fou en faisant 3 coups de suite. Et je me suis dit, ce serait drôle, un jeu comme ça qui te laisse l'opportunité de faire 3 tours d'un coup, mais machin, et où t'es un peu plus libre dans le nombre de tours que tu veux faire, mais où il y aurait plus de contraintes que ce qu'on lui a imposé. Mais bon, voilà, tu vois, il a pu rejoindre la partie en course sans problème. Il n'y avait pas trop de soucis là-dessus, donc c'est vraiment...
Il y a peu d'enjeux, quoi.
Non, c'est ça, on dit, bah vas-y, de toute façon, fais tes tours, hein, tu sais, pour ce que ça va changer à la qualité du jeu et de la partie. Alors, on a passé un bon moment, on était aussi avec Ophélie, du coup, on était 4. Mais on passe toujours des bons moments, hein, quelle que soit la qualité des jeux. Hein. Encore une fois, la qualité du moment passé n'est pas corrélée ni de causalité avec la qualité du jeu. Celui-là, voilà, c'est du jeu facile à vendre, hein. Belle couverture, sûrement un prix autour des 30 euros, j'imagine, par là. Voilà. Par contre, c'est vrai que... En termes de sensations, ça apporte rien qu'on ne connaisse déjà et ça l'apporte sûrement moins bien en plus que d'autres. Donc, voilà. C'est bien, on l'a découvert, mais...
C'est beau, ça se joue vite et c'est accessible, voilà. On a cité les 3 qualités qui font vendre et puis basta, quoi.
Voilà, c'était Tulico. Il devrait sortir dans l'année chez Studio H de Nicolas Mellet et Jérôme Soleil, illustré par Maud Chalmel. Et oh, ils ont claqué, hein. Sur BGG, ils mettent 10-20 minutes, je dirais quand même une trentaine de minutes.
Je sais pas si on a joué si longtemps que ça. Ouais, je pense que les 20 minutes, tu les tiens quand t'as déjà joué au jeu. Hein. Tellement c'est jeu pré-mâché un peu là, où
voilà.
Tu joues un peu automatiquement. Bon.
Oui, et puis à deux, effectivement, tu t'as peut-être les 15 minutes enchaîné. Bref, c'était Tulico et c'était pas mémorable, mais au moins on a pu l'essayer comme ça. Comme ça, on sait que ce sera pas un futur jeu du mois. Je te laisse enchaîner avec sûrement quelque chose de bien mieux.
Oh bah alors écoute, si t'as autant d'attentes de mon côté, oula, tu vas être déçu. Je vais parler de Codo Berlin 63, un jeu auquel on a joué tous les deux. Alors c'est un jeu d'affrontement à deux. Ça ressemble à du Stratego. Donc on va avoir un damier en fait, hein, sur lequel on va faire progresser des personnages, mais l'adversaire les voit pas. On est le seul à les voir. Chaque personnage a un pouvoir spécial, en gros, voilà, il a une capacité. À notre tour de jeu, on avance et puis on fait le pouvoir du perso. Mais le twist, c'est que c'est un jeu qui est un peu croisé avec du mascarade ou du coup, ces jeux dans lesquels on peut dire qu'on a un perso alors qu'en fait on l'a pas. Donc on va pouvoir bluffer, et donc je vais pouvoir avancer un personnage et faire l'effet éventuellement d'un autre. Mais t'es pas obligé de me croire. Et si tu ne me crois pas, tu peux me dire, je pense que tu me bluffes. Selon qui a raison, qui a tort, celui en gros qui a tort va perdre un personnage qui est dans la réserve normalement. Si on n'a plus de personnage en réserve et qu'on doit en perdre un, on perd la partie. Une autre façon de perdre, c'est de se faire tuer son leader. En fait, parmi les 5 qu'on a positionné au départ, il y a un leader. Et donc, en gros, si on se le fait prendre, on perd la partie. Voilà, globalement, le pic du jeu. Et en fait... j'ai pas trouvé ça passionnant du tout, j'ai pas trouvé ça amusant, j'ai pas trouvé ça challengeant non plus. J'avais pas l'impression d'avoir trop d'éléments sur lesquels faire reposer mon bluff ou débunker le tien. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais j'ai pas trop de prise en fait, et ça me gêne moi dans les jeux de bluff. J'aime bien qu'il y ait des indices qui me permettent de dire ok, là il a tout intérêt à bluffer et à faire ce coup là alors ça arrive un petit peu plus à la fin de la partie, mais à la fin de la partie, quand t'as déjà buté 3 gars, t'as déjà moins de possibilités de bluff. Donc je sais pas, moi j'ai vraiment ça m'est vraiment passé à 15 000 quoi. J'ai pas compris pourquoi ce truc là il avait été édité, encore moins chez Story War French. Je vois pas trop ça, je vois pas trop ce que ça vient faire dans leur proposition de gamme, tu vois, de ce qu'ils sortent aujourd'hui. Bizarre. Ça m'a l'air d'être un jeu d'un temps ancien, tu vois, ça vraiment, ça sort pas tant du Stratego au final, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vraiment chiant quoi, comme jeu. En fait c'est mou quoi, tu vois, parce qu'en fait c'est rigolo, parce que du coup le plateau, contrairement au j'ai jamais joué au Stratego non plus, tu vois, mais j'ai joué par exemple à Speakeasy qui est sorti il y a peut-être 15 ans chez Capsicum là, et normalement c'est quand même des plateaux plus grands, tu vois. Là, c'est un plateau tout réduit, donc tu te dis, ok, ils ont essayé de réduire ça au maximum pour apporter de la tension et du dynamisme. Mais en fait, le fait que tu puisses te déplacer que d'une case et tout, enfin, c'est chiant, les pouvoirs... effectivement, ouais. T'as des pouvoirs qui changent un peu les déplacements, machin. Mais c'est super mou, et t'as vraiment l'impression de pas avancer, et de rien faire à ton tour, en fait. Et effectivement, du coup, tout repose sur l'émotion du bluff, de dire, ah, je joue ça, Sauf qu'en fait, les pouvoirs sont... Sauf t'en as un qui est une bombe, là, qui peut être un peu drôle, mais les pouvoirs sont pas non plus très excitants, donc en fait, t'es pas spécialement excité de ni de dire ton vrai pouvoir, ni de mentir. Tu dis, bon, bah, oui, j'ai pu me déplacer comme ça parce que j'étais le pouvoir. Ah, ok. Ah, bah, je vais regarder ton bonhomme parce que j'ai ce pouvoir. Tu vois, c'est des pouvoirs quand même assez lambda. Et du coup, ouais, ça soulève pas d'enthousiasme particulier, ni d'émotion, et effectivement, bah, t'as quelques infos qui se débloquent petit à petit dans la partie, mais... tu vois, après, il y a Another Day, par exemple, a des éléments bien plus en cohérence à son scope et à sa proposition en termes de sur quoi tu bases ton guessing, quoi. Là non, quoi. Enfin, c'est vraiment... bah, ok, je fais ça. Et puis, en fait, ah, bah, oui, j'avais bluffé. Et en fait, il n'y a jamais... Tu vois, t'es un peu... C'est chiant, quoi. Enfin, t'es là et tu dis, oui, bah, non, j'avais pas bluffé. Oui, j'avais bluffé. Ok, bah, c'est à toi. Je fais un...
T'as pas l'impression d'avoir fait un super coup de ouf.
Ah, non, jamais.
Ni dans un sens, ni dans l'autre.
Et puis, artistiquement, moi, je trouve ça aussi un peu... Pas du meilleur goût non plus. Alors, ils ont voulu faire un truc clair, tu sais, justement, qui rappelle le Stratego avec ces trucs à la quiesse bleu et rouge, là.
Ça fait un peu criard. Ouais.
Reste que ça tranche un petit peu. Ouais, c'est un peu criard. Et puis même, je trouve que les visuels, moi, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Et je trouve pas ça très lié, effectivement, à la direction artistique globale de Story We Are French, qui, tu vois, de ce point de vue-là, il y a plein de jeux que j'ai fait chez eux que j'aime pas, mais où je trouve, là, tu vois, sur les traces de Darwin, artistiquement,
ouais,
c'est, visuellement, c'est cool.
C'est canon. L'édition, elle est ouf, tu vois, sur les traces de Darwin. Mais là, tu fais, ben...
C'est très sombre, quoi, et en même temps, c'est sombre, mais ça véhicule aucun propos sombre ou dystopique, tu vois. Enfin, t'es vraiment deux zigotos qui s'affrontent, et il y a un truc trop bizarre, mais vraiment, alors je comprends d'un point de vue du game design, mais c'est que toi et moi, on a la même équipe.
Ouais, on a exactement les mêmes persos avec les mêmes pouvoirs. Hein.
Alors, on n'aura pas le même leader, mais sinon, on a la même. Et du coup, ça n'a aucun sens, parce que, enfin, tu vois, si j'essaye de me projeter dans ce qui se passe sur le plateau, bah, en fait, je suis en train d'affronter les mêmes que moi, et voilà, et il n'y a rien dans le lore qui vient justifier ça. Alors, d'un point de vue du game design, effectivement, savoir que tel perso, il fait ce pouvoir, avoir les mêmes persos, ça facilite l'apprentissage de ces persos. Tu vois, je peux le concevoir, mais c'est vrai que d'un point de vue de l'immersion et de la compréhension un peu de qu'est-ce que raconte ce jeu, bah, en fait, c'est complètement à côté de la plaque, quoi, t'es là-dessus. Ok, toi aussi t'as ce perso, ah ouais, c'est le même. Et il est nul, ouais, il est nul. Ouais, un peu... Et puis surtout, ouais, tu vois, ça sort dans une année où t'as Toy Battle qui sort, où t'as Zenith, où t'as des jeux à deux, tu vois, Jean Avenue. Enfin, c'est un peu comme Gatsby, tu vois, enfin, à un moment, t'as des jeux à deux de cette qualité qui sort, ceux-là, ben, déjà, même dans d'autres années, tu pourrais les critiquer, mais là, tu dis, ok.
Ouais, non, là, ça sert à rien, vraiment, quoi, c'est bon. Voilà. Et effectivement, ouais, c'est lent en plus. Enfin, il y a ce sentiment. Enfin, c'est pas lent parce que la partie elle est longue, tu vois. C'est juste lent parce qu'en fait, t'as l'impression de pas avancer. T'as l'impression d'avoir tous les premiers coups, t'as l'impression qu'ils servent à rien en fait, quoi.
Ah, c'est très mou,
bon,
en fait.
Bref, voilà. Donc, c'était Kodo Berlin 63. Ça joue à deux. Ils annoncent 20 minutes, 14 ans. C'est un jeu de Leandro Proust et Johan Roussel. L'illustrateur, c'est Bones. Et c'est édité chez Story War French. C'est déjà en vente, là, ça coûte 21,90€ à la Caverne du Gobelin. Et si tu peux, tiens, pour faire... Alors, je l'avais mis dans ce dont on pourrait parler après, éventuellement, s'il nous reste du temps. Mais en fait, je trouve que on pourrait parler de Leaders, auquel j'ai joué aussi, qui est aussi un jeu tactique à deux, et qui, pour le coup, a pris d'autres paris. Et bah, je trouve que ça marche mieux. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti chez Studio H. Alors, pour le coup, c'est la même grande maison, hein. C'est du Hachette. Bah, les grandes différences, c'est que là, déjà, tu vas constituer ton équipe en cours de route. En gros, c'est les premiers tours. Hein, les premiers tours, tu vas choisir des personnages. Donc, il y a une espèce de rivière donc, dans laquelle tu vas choisir tes personnages. Donc déjà, les personnages sont différents. Tu vas construire ton équipe en réponse à ce que l'autre fait. Et je trouve qu'il y a des... Enfin, il y a des pouvoirs déjà qui sont un peu plus punchy, quoi. Alors, tu vas avoir aussi un peu ce petit travers de les premiers tours, c'est un peu de la mise en jambe, sauf que bah, ils ont été malins, en fait, parce que c'est le moment aussi où tu construis ton équipe. Ils auraient pu dire, tu construis ton équipe au début, ouais. Tu sais, on fait un draft, mais on joue pas. Bah là, non, en fait, ils ont, quelque part, ils ont couvert ce côté où la partie, elle est un peu plan-plan au départ, parce que bah, on est chacun à un bout du plateau, donc forcément, à un moment, il faut se rapprocher pour se taper dessus. Hein. Donc, bah, ils ont couvert ce truc-là avec le système de draft des personnages.
Ok, ouais.
Et t'as vraiment des persos qui permettent de contrer les persos des autres, etc. Donc tu vas vraiment créer une espèce de, pour après ce que dire, de méta dans la partie, tu vois. Tu vas vraiment créer un truc qui va permettre de répondre à l'équipe adverse, la contrer, à l'attaquer, à mieux, ouais, à mieux, à mieux, affronter, quoi. Et après, le reste, bon, il n'y a pas d'histoire de bluff et tout ça, là. Là, tu connais les persos des autres et leurs pouvoirs, donc c'est beaucoup plus direct. T'as un mécanisme d'encerclement, t'as un mécanisme aussi où il faut tuer le leader de l'autre. Ouais, donc tu vois, on retrouve vraiment des tropes un peu similaires dans le concept, sauf que c'est plus intéressant parce que les pouvoirs sont plus intéressants, c'est plus punchy parce que l'entrée en matière elle est mieux guidée, elle est mieux réalisée. Bah, intellectuellement aussi, c'est un peu plus intéressant parce que alors déjà c'est peut-être un peu moins fouillis au départ parce que t'as moins de pouvoirs. T'as moins de persos et donc t'as moins de pouvoir. Donc c'est peut-être un peu mieux guidé aussi dans ton esprit, c'est un peu plus direct.
Le plateau est moins frontal aussi, je crois, non ? Alors que dans Kodo, c'est vraiment une ligne face à une ligne. Là, ça a souvent été comparé genre à Champ d'honneur, je crois.
Ouais.
Là, t'as plus une espèce de... pas de damier, mais un peu un truc comme ça, quoi.
Ouais, c'est un damier. C'est tout hexagonal, donc du coup, t'as effectivement plus de mobilité, toi. Ouais. Alors que dans le damier de Kodo 63, c'est un damier, quoi. Donc t'as 4 sorties sur une case alors que là t'en as 6 et t'as vraiment ce jeu. Le truc aussi, c'est que quand tu joues, tu vas jouer tous tes personnages, donc t'as un jeu d'équipe en fait, okay, qui se crée,
une espèce de synergie à mettre en place.
Tu vas pouvoir combiner, voilà, tu vas combiner des trucs. C'est aussi ça qui fait que c'est plus dynamique et c'est moins plan-plan que quand tu joues un coup, que en plus c'est peut-être pas le vrai coup, tu vois, donc peut-être qu'on va te le couper avec le truc de bluff. Là tu peux construire vraiment un truc pendant ton tour, donc du coup t'es aussi vachement plus sollicité intellectuellement pour trouver la bonne combinaison qui va faire que tu vas réussir à piéger ton adversaire, quoi. Moi, je sais pas, c'est pas trop mon délire comme style de jeu, donc ça a pas été un coup de cœur d'ouf, mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient vraiment été passionnés par le jeu et que ça a vraiment emballé, quoi.
Ouais, il a eu un bon succès depuis sa sortie, il fait partie des jeux à deux assez mis en avant ici et là et que les gens ont plutôt apprécié. Moi de loin, effectivement, ça faisait trop jeu abstrait pour moi, mais avec des pouvoirs et tout.
Ouais,
et...
bah c'est ça, hein. Oui, c'est quand même un peu ça, tu vois, effectivement, ça se coûtait jeu abstrait avec des pouvoirs, tout à fait. Donc c'est pour ça que moi c'est pas trop ma cam, mais je peux comprendre qu'il y a des gens que ça fasse kiffer, quoi. Et c'est vachement mieux fait que Kodo 63, que Kodo Berlin 63.
Les gens comparaient ça effectivement à Champ d'honneur, qui a une très très bonne réputation dans ce genre-là et que j'ai toujours pas essayé non plus. Mais ce que tu disais est intéressant sur la question du rythme, en fait, et de ce que tu disais là, que le début peut être plan-plan, et comment tu compenses ça. Bah, c'est moins par... En fait, tu remplaces les choix intéressants du plateau par les choix de... Parce que tu disais, tu fais ton équipe.
Qui tu mets dans ton équipe, ouais.
Du coup, t'as quand même un impact sur le jeu et tu te dis, ok, bon, bah ça va être un peu automatique ou chiant, mais en même temps, bah, j'ai de la prise à ce niveau-là. Donc, en termes de rythme, t'arrives quand même à être engagé à des moments où, effectivement, dans Kodo, tu ne l'es pas, quoi.
Voilà, donc ça, c'est Leaders, donc un jeu pour deux joueurs. Ils annoncent des parties de 10 à 45 minutes à partir de 10 ans. C'est un jeu de Hugo Frénois, qui est illustré par Xavier Guénifé-Durin, et c'est chez Studio H. Et ça, c'est déjà sorti.
C'est Nayad, non ?
Oui, c'est ça. Ça doit être ça, c'est Nayad.
Ouais, mais ouais. Maintenant, il est plus écrit comme Nayad sur BGG, je crois.
Le jeu est plus dispo en ce moment, il est censé être réimprimé d'ici fin juillet. Voilà, mais c'est aux alentours de 25€ en gros. Leaders. Mais écoute, je te repasse la main du coup, après ce vol en bonne et due forme.
Ah, bah t'as raison, c'était un rebond sur un autre jeu. Donc t'as bien fait.
Un auto-rebond.
Moi, j'ai continué avec un prototype. Un prototype dont la sortie est prévue en 2026, puisqu'il y avait quand même quelques avant-premières. Tulico en était une, mais c'était pas un proto, hein, c'était une boîte de pré-prod. Donc là, c'est vraiment un proto, ça s'appelle Ballet Pattes. C'est un premier jeu, a priori, de Félix Metzinger et Sarah Germain. Je dis Metzinger à l'alsacienne, ça se trouve c'est Metzinger qui veut qu'on prononce, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est deux auteurs, enfin un auteur et une autrice du Cru de Strasbourg, et c'est a priori chez Disto Studio, donc l'éditeur derrière Ephios, et cette année aussi derrière Daydream, qui a un peu mieux marché que Ephios, et donc qui sont vraiment des locaux de l'État puisqu'ils sont aussi à Strasbourg, et donc ils ont trouvé le jeu je crois dans une cava proto un peu, tu vois, de auteur ou autrice de Strasbourg, donc ils y étaient allés puis ils ont trouvé ça. Donc ouais, c'est pas pour tout de suite, quoi qu'il en soit, hein, c'est vraiment encore en phase de prototypage, mais il y a le cœur du jeu, donc bat les pattes. L'idée, c'est qu'on ait chacune un ou une ours qui veut choper des trucs dans une rivière, et comment ça se symbolise ? Bah, on va lever nos deux pattes, et à tout moment, bah, on va pouvoir taper avec une patte pour essayer de récupérer ce qu'il y a au milieu de la table, un peu comme si on pêchait comme un... Enfin, j'ai jamais pêché comme un ours, mais j'imagine qu'ils font à peu près ça. Hein,
ça s'imagine.
En tout cas, l'image qu'on a de la pêche façon ours. Et ce qui est rigolo dedans, c'est que c'est un jeu d'analyse frénétique, donc big up, puis on fait ça. Puisque, à quel moment on va taper, c'est à nous de le choisir, mais tout le monde va... enfin, il n'y a qu'une personne qui va taper à chaque manche. Donc, t'es comme ça avec tes deux mains levées, il faut que tu choisisses le moment où effectivement tu vas taper avec ta main droite ou ta main gauche. Pendant ce temps, en attendant que tu tapes, il y a une des personnes à table qui va faire partie du jeu, mais qui va à ce moment-là être la personne qui va dealer un petit peu la rivière, qui va dépiler la pioche pour créer la rivière petit à petit. Et ça, à son rythme, le rythme peut vraiment être différent selon la personne qui dépile. Par exemple, toi, tu dépilais très très vite, alors qu'il y a des gens, tu vois, qui vont le faire plus doucement. Donc c'est rigolo, ouais. Cette notion de... Le côté analyse frénétique, en fait, le timer, c'est pas un timer défini par le jeu, c'est un timer défini par la personne qui dépile la pioche. Et pourquoi tu taperais ? Parce que tu veux marquer des points.
Bah oui, mais comment ?
Et les points, ça va dépendre de ce qu'il y a au milieu. Combien ça va valoir, ça va dépendre de ton scoring. Ton scoring de la main droite n'est pas le même que de ta main gauche. Ça va par exemple, j'ai plus en tête, mais ça va par exemple être un point par poisson, ou s'il y a X poissons, tu marques tant de points, des trucs comme ça. Et ça va vraiment être des scorings différents, donc il faut que tu latéralises ton scoring, que tu le gardes en tête, et qu'à un moment tu dises, ok, là il faut que je tape, parce que c'est intéressant, mais en même temps t'as tout le côté un peu stop ou encore, ou ouais, mais je peux peut-être attendre et gratter quelques points, mais en même temps les autres ils attendent aussi ça, voilà, et puis en même temps il faut que je pense à taper avec la bonne main, moi ça m'est arrivé de taper avec ma main gauche alors que je voulais scorer avec ma main droite, des trucs comme ça. Donc en fait, il y a vraiment tout ce que tu trouves un peu dans l'analyse frénétique, c'est t'as beaucoup de trucs à te mettre en tête, parce que t'as aussi des petits trucs de collection et tout, il y a quand même quelques cartes un peu spécifiques qui viennent un peu foutre encore un petit bordel là-dedans, mais du coup dans ta tête t'as plein de trucs à prendre en compte, et en même temps t'as ce côté de temps réel humain qui fait que tu veux un moment taper et que tu choisisses à quel moment et que les autres font tous ça pareil, donc t'es vraiment dans cette espèce de cadre-là où il faut, tu vois, c'est de la rapidité mais pas vraiment.
Il y a quand même un petit côté stop encore en même temps, c'est est-ce que je laisse encore éventuellement la rivière grossir au risque que quelqu'un vienne me prendre le tas, ou est-ce que j'y vais tout de suite quoi.
Et puis il y a un moment où tout le monde tape quoi, parce qu'en fait il y a un truc qui vient de se révéler qui est ouf quoi, et donc voilà, et moi j'ai trouvé ça vraiment cool, assez rigolo, vraiment assez, enfin tu vois, des jeux d'analyse frénétique, on va reprendre le terme, il y en a pas tant que ça, là je trouve qu'il a vraiment ses spécificités, que la surcharge cognitive que ça crée est bien quoi, c'est le bon dosage en fait, entre les informations qu'il faut que tu essayes d'organiser et de mémoriser. C'est rigolo parce que c'est des informations en termes de scoring, mais aussi sur ta latéralisation, quoi. C'est, ah oui, ça, c'est pour ma main droite. Donc, il faut que je pense à taper avec la main droite, tu vois, plutôt que la main gauche. Et qui va changer, en fait, au fur et à mesure des cartes qui vont être révélées. Moi, je trouve qu'il y a un bon équilibre là-dedans. Et donc, après, une fois que t'as tapé, en fait, c'est toi qui deviens le dealer, quoi, qui va révéler les cartes. Donc, voilà. Et puis, tu peux pas le faire autant que tu veux. T'as qu'un certain nombre de tapes. Parce que sinon, ouais. Ce serait claqué.
Mmh. Oui, c'est important. Mais c'est ça.
Écoute, t'es limité à, je sais plus, 3-4 fois à taper, peu importe, ça c'est encore une fois du proto, ça peut évoluer, mais l'idée c'est que t'es limité là-dedans, donc à un moment tu veux pas les gâcher, parce que sinon effectivement tu taperais à chaque fois. Ouais, et puis il y a des trucs qui font des points négatifs, machin. Donc moi je trouve, ouais, bon équilibre, assez curieux de voir, je pense que l'essence du jeu ils l'ont, hein, y a pas beaucoup à changer, ça va être des ajustements au niveau du proto, y a pas encore d'illustrateur illustratrice parce que...
Ouais, des systèmes de score éventuellement, j'imagine, mais... Visibilité.
Gérer le combien de cartes tu mets dans la pioche, des trucs comme ça aussi. Mais je trouve que le cœur du jeu est bon déjà, quoi. Et après, c'est pas pour tout de suite, hein, mais assez enthousiasmé.
Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le jeu. J'ai fait une partie express avant de partir, vraiment. Et effectivement, ce côté. La surcharge, elle est créée juste sur la latéralité et. Ton scoring quoi, c'est pas du pool tu vois, où t'as un truc qui se rajoute, qui s'enlève, machin, donc on n'est pas dans ce niveau de complexité là quand même, je trouve que ça reste assez gérable, mais ouais, juste suffisant, tu l'as dit, en fait c'est juste suffisant, et en même temps c'est quand même assez original, c'est assez raccord avec tu vois cette image effectivement qu'on peut avoir de l'ours qui vient, ouais, pêcher, donc au niveau de la gestuelle t'es dedans,
l'ours qui doit prendre pile au bon moment, tu vois, pour choper son saumon. Et là, c'est pareil, il faut que tu choisisses le moment où tu vas y aller.
C'est ça, ouais.
Pour vraiment maximiser ton score. Alors, c'est pas juste un saumon. Si tu veux vraiment aller loin, l'ours, en un geste, il va pas ramasser tout ce que tu ramasses toi comme carte. Mais ouais, il y a vraiment une mise en scène qui marche bien. Il y a juste un des membres de la maison d'édition qui me disait, il y a des gens qui, tu sais, n'arrivent pas à visualiser le fait qu'ils voient leur reflet dans l'eau. Et pour eux, du coup, le plateau ours... la main droite de l'ours, c'est ta main droite. Tu vois, ils inversent.
Ah.
Parce que du coup, ils se projettent dans l'image de l'ours. Ouais. Et il a vraiment eu ce problème plusieurs fois, quoi. Et je dis, ah oui, c'est bizarre parce que moi, naturellement, ben, tu vois.
Oui, tu le fais en miroir.
Le scoring, il change dès que tu tapes.
Oui.
Tu tournes, en fait, ça c'est assez bien foutu aussi. Je sais pas comment ils vont le faire au final. Mais là, c'est une espèce de roue que tu tournes et qui va changer ton scoring. Donc en fait, dès que tu vas taper, tu scores plus de la même manière. Donc en fait, faut que tu dis, ah oui, non, là maintenant, je score plus comme ça. Maintenant, c'est comme ci, comme ça. Ah,
ça,
main gauche,
ça participe
ça.
Justement à cette petite surcharge, mais qui est légère. Elle est juste du bon dosage. Quoi.
Ouais, c'est vraiment une question de dosage. Et je trouve que pour l'instant, ils l'ont. Après, ouais. Je trouve vraiment l'essence du jeu, faut plus la toucher. Et vraiment juste ajuster pour peaufiner, tu vois, ce truc. Mais pour moi, ouais, c'est de ce que j'ai découvert, le plus enthousiasmant, en tout cas, que j'ai pu jouer.
Moi, ouais, je confirme, ça fait en tout cas partie des plus enthousiasmants aussi auxquels j'ai joué. Ouais. Bas les pattes. Ouais.
Du coup, Bas les pattes, ce sera donc chez. En tout cas, c'est le titre provisoire, je sais pas si ça s'appellerait comme ça, mais c'est prévu chez Disto Studio, a priori pour 2026, et c'est un jeu donc de Félix Metzinger et Sarah Germain.
Ok, alors de mon côté, je vais parler de Bango. Bango, c'est un jeu qui est sorti récemment chez Gigamic. Je crois qu'il est, oui, il est sorti. C'est jeu, bah, je t'y ai fait jouer, hein, je crois. J'ai fait quand même deux parties dans le week-end de Bango.
Ouais.
C'est jeu qu'on appelle un peu les petits jeux de cartes malins. Ah, donc ça rentre pas dans des cadres bien précis, mais il y a un système de stop ou encore, c'est-à-dire qu'on va récupérer des cartes dans une rivière et donc on va s'auto-alimenter. Je dis ok, je rajoute une carte. Je rajoute une ou pas, ouais, non, peut-être pas. Et quand on s'arrête, en gros, on va pouvoir récupérer les cartes qu'on veut. Ces cartes-là, on va les mettre dans des séries et il faut faire des suites de valeurs. Voilà, c'est des cartes avec juste des valeurs et des couleurs. Le problème du jeu, c'est que en fait, le rythme était trop plan-plan. En fait, on a vraiment envie, dans ce genre de jeu, on a envie de se faire des crasses, on a envie qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait des retournements de situation, on a envie qu'il y en ait un qui s'écroule, que... Tu vois, c'est ça qu'on attend de ces jeux de cartes malins, là. On veut qu'il se passe des trucs autour de la table, on veut qu'il y ait un truc malin dans le jeu. En fait, là, il n'y a même pas un truc malin, je trouve, dans le jeu. Le principe, en gros, ce serait si le jeu avait été malin, c'est qu'il aurait fallu qu'on puisse, à un moment, attaquer quelqu'un, dire bah faire en sorte qu'il récupère des cartes qui rentrent pas dans sa série. Dans ce cas-là, en fait, ça va faire des points négatifs. Donc ça, c'est effectivement c'est le cas dans le jeu. Hein. Les cartes qui rentrent pas dans ta série, à un moment, t'es obligé, en gros, de poser des cartes. Et quand ça rentre pas dans ta série, ça va faire des points négatifs. Mais en fait, t'as pas trop de prise là-dessus finalement. Et t'as un système, donc le fameux Bango, là, où bah il sert à annuler. Donc en fait, j'ai envie de dire finalement le principe. Le nom du jeu, l'action qui colle avec le nom du jeu, elle est complètement antinomique avec l'attente de ces jeux-là. C'est-à-dire que c'est cette fameuse action, le Bango, qui permet de venir annuler des cartes qui te feraient chier. Donc en gros, si bah, au milieu dans la rivière, là, il y a un 8 qui me fait chier, si j'ai un 8 dans ma main, en fait, je peux le lâcher pour dire bah, j'enlève le 8.
Ouais, c'est un outil de flexibilité alors que ça devrait être un truc punitif presque.
Ouais, pour moi, presque de trop. Alors évidemment, s'il n'y était pas, ce serait encore plus pété sûrement, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ils ont choisi une orientation du jeu qui était pas la bonne. Ils sont partis dans du mauvais côté, ils sont partis dans du contrôle, là où pour moi il faut qu'il puisse y avoir des rebondissements, des retournements de situation. On avait même fait une première partie où il y a cette fameuse règle du Bango, on l'avait pas bien comprise, on croyait qu'on pouvait le faire un peu n'importe quand, autour de n'importe qui. Bah figure-toi que c'était plus drôle au final, quoi.
Bah que tu peux en fait interrompre le tirage de quelqu'un avec un Bango si tu sens qu'à un moment ça va être trop intéressant pour cette
ouais,
personne.
Ouais, ça allait être trop intéressant pour lui, ou parce que bon, il y a une mécanique en fait, en gros si tu exploses, il y a un système qui fait qu'à un moment, voilà, t'as merdé, comme à Flip 7, en gros, tu retournes une carte de la même valeur, c'est pas bon. Bah quand tu fais ça, tout le monde va devoir prendre une carte derrière. Et là, du coup, on jouait des bangos pour que les gens ils prennent pas les cartes qui les arrangeaient, tu vois. On jouait vraiment en mode où tu joues quand tu veux, n'importe comment, voilà quoi. Bah c'était très foutraque, on est d'accord, mais c'était quand même vachement plus drôle au final.
Bah plus dynamique en fait.
Ouais.
Parce que ouais, ce truc-là, là, ça rappelle aussi un peu Push, tu sais, petit jeu de stop ou encore, là, où tu vas créer des colonnes et puis tu vas récupérer comme ça dans l'ordre du tour, au Tricky Time Crisis, tu sais, dont j'ai parlé au Tajak Weekend Proxy Jeu.
Ouais.
Où, comme ça, t'essayes de créer des situations où... Mais là, t'essayes pas de créer des situations, en fait, c'est juste que ça explose, donc tout le monde prend des cartes, mais c'est pas toi qui crée vraiment des situations, ça donne pas des choix intéressants.
Non, et puis dans Tricky Time Crisis, tu peux dire, ok, vas-y, toi, prends celle-là pour que l'autre, il récupère celle-là et ça l'arrange pas.
Ah oui, ça parle autour de la table, ouais.
Mais en fait... là non, parce que la carte tu vas la récupérer dans ta main, donc ça se trouve tu vas réussir à t'en débarrasser plus tard. Enfin bon, tu vois, il n'y a pas du tout cette dynamique effectivement qui est créée dans Tricky Time Crisis, quoi, qui est pour le coup est intéressante.
Ouais, bah moi ma partie, ouais, effectivement je te rejoins. En fait ça pourrait être sympa, tu vois, parce qu'en fait t'as comme ça des jeux où t'essayes comme ça de faire des suites et tout, et moi je trouve intéressant en fait le fait que quand tu poses des cartes t'es obligé de tout poser. Tu vois, c'est une contrainte
forte. Ça, c'est la partie intéressante du jeu, effectivement. À un moment, t'as cette contrainte. Il faut que tu poses tout. Sauf que, il faut que t'aies des trucs de merde à poser quand c'est comme ça. Sinon, c'est pas drôle.
Ouais, et puis que t'as que 3 colonnes max, je crois.
Ouais, je crois.
Donc, en fait, à un moment, il faut que tu respectes ce côté où tu mets par ordre croissant et tout. Et bah, si tu peux pas, en fait, ça va dans ta défausse qui te fera des points négatifs. Donc, en fait, et t'as une limite de carte en main, évidemment. Donc, en fait, t'essayes tout le temps un peu comme ça d'essayer de faire du end management, un peu, tu vois, où tu te dis, ok, là, je prends les bonnes cartes, ça va me permettre de faire ci et ça. Pour mettre, en plus, le scoring, c'est tu rajoutes des points si tu mets la même couleur dans une série. Donc, t'as quand même plein de petits trucs comme ça où t'essayes de te dire, ok, là, il faudrait que je prenne ça pour poser ci et ça. Et qui est lié à cette contrainte de tout poser. Alors que des fois, vraiment, t'as pas envie. Et ça, ça rappelle un peu Odin, tu vois, quand des fois, tu joues et t'as pas envie de prendre une des cartes qui est encore sur la table. Bah là, t'as ce côté un peu marche forcée où, en fait, t'aimerais bien pouvoir... tu vois, la flexibilité, t'as envie de l'avoir là, mais en même temps, c'est mieux qu'elle y soit pas. Hein. Et elle est plus dans le bango, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça cool, moi, ce côté-là. Mais après, en vrai... En vrai, ça suffit pas à rendre le jeu dynamique. Enfin, pour ça, en fait, faut soit créer de l'interaction comme dans Hit, où tu vas piquer des cartes et tout, soit effectivement faire Flip 7, où ça pétarade, où tu vas avoir des effets, où tu vas avoir des moments spectaculaires. Tu vois, hier encore, on a joué à Flip 7 avec Père Castor et son fils. Bah, en fait, on a encore une situation rigolote, où on se dit « Ah ouais, il s'est passé ça et tout. Ah, c'est quand même drôle et tout. » Alors que là, bah non, en fait. T'as beau avoir cette contrainte qui est pas inintéressante, bah ça produit jamais des situations de jeu rigolotes, et en fait tu finis ta partie, tu dis bon bah bravo t'as gagné, ok bon on fait autre chose. Mais bon, c'est comme tous ces petits jeux de cartes en fait qui sont là, ah, j'en parlais dans le jeton dans la mare avec Petit Pois, tu vois, ils sont là en espérant que ça marche comme un Skijo, comme un Trio, comme un Flip 7, mais bah, en même temps Trio et Flip 7, tu vois, enfin c'est pas juste parce que c'est des petits jeux de cartes que ça marche, c'est que c'est des très bons jeux, quoi.
Il y a quelque chose derrière qui fait que ça passionne. Il se passe des trucs, quoi. Voilà. Et là, il se passe pas grand-chose. Bon, voilà, donc c'était Bango. Donc c'est un jeu donné pour 2, 5 joueurs, 15 minutes, 8 ans. C'est un jeu de Paco Yanez, qui est illustré par Ulrich Maes. C'était chez Funny Fox. C'est aux alentours de 15 euros. Mais genre, pour le moment, il n'est pas sur la boutique de la caverne.
Je prends la main ?
Vas-y, ouais.
On était avant chez moi avec un jeu d'analyse frénétique, ben on va encore être sur un jeu timé avec Docteur Gribouille. Alors je vous renvoie aussi au débrief qui a été fait au Fige de cette année. Docteur Gribouille, c'est un jeu de Romain Caterjean, un auteur toujours intéressant, je trouve. C'est rarement super abouti ce qu'il fait, mais je trouve qu'il a toujours des idées rigolotes. J'aime bien observer ses jeux, ses designs, quoi. C'est encore une fois chez Studio H, décidément on était beaucoup chez Hachette. Ils avaient pas mal de tables dans mon coin, donc je m'éloignais pas trop de mes tables d'import. Mmh. Et c'est illustré par Mehdi Doigt, et donc... Mehdi Doigt, ça c'est pas son vrai nom, mais c'est excellent. Mehdi Doigt, trop drôle. Donc c'est un jeu, ouais, où, un jeu coopératif où il y a quelqu'un qui va incarner, je crois, le médecin, et les autres vont incarner les pharmaciens, pharmaciennes, et donc on va devoir écrire nos prescriptions en temps très limité. Je crois que c'est quoi, 15 secondes, 25 secondes, un truc comme ça.
Ah, c'est dans ces eaux-là,
en tout cas. En tout cas, très rapidement, et c'est évidemment des mots très longs, et donc ça pousse évidemment à les écrire avec ce qu'on appelle une écriture de médecin. Et après, les autres vont devoir les décoder et manipuler ces petites pilules-là pour recréer les mots. Y a un côté un peu Pictorush Co-op, tu vois, ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien ce genre de jeu-là, où t'es dans l'urgence, où moi, quand j'étais le médecin, en fait, j'essayais d'écrire sans regarder ce que j'écrivais pour gagner en efficacité, donc en regardant juste ce que je lisais. Spoiler, ça marchait que moyennement. C'est rigolo, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, t'as un peu l'impression aussi d'un jeu de Roberto Fraga, des trucs comme ça. J'adore découvrir ces jeux, j'aime beaucoup y jouer. Pour moi, je crois que c'est déjà la conclusion à laquelle vous étiez arrivé un peu au fiche, c'est que c'est cool, tu passes un très bon moment, tu vois, genre tu me proposes une partie de Dr. Grimoud, go, vas-y, pas de souci. Mais pour moi, c'est des expériences un peu uniques, et dans des contextes de ludothèque, de bar à jeux, mais que, tu vois, je vais pas avoir chez moi, parce qu'en fait, j'aimerais beaucoup en faire une partie une fois de temps en temps, mais de là à pousser le truc plus loin, pas forcément, quoi. Mais j'ai passé un très bon moment. Pour moi, c'est typiquement un bon jeu, mais pas forcément à avoir chez soi, quoi.
Ouais, bah je pense que c'était à peu près ce qu'on avait dû en dire, effectivement, à Cannes, ouais. Ouais, tu confirmes. Voilà, bah, effectivement, c'est un jeu que t'aimes bien faire découvrir, donc je pense que j'ai déjà joué 4 fois, peut-être, l'air de rien, tu vois. sur différents festivals, à chaque fois, y faire jouer quelqu'un. Donc bon, bah tiens, ouais, bah attends, je vais te montrer, tu vois. C'est rigolo, mais pour l'expérience, quoi.
Ouais, et puis quand même, t'as un truc aussi quand t'es plutôt du côté des pharmaciens, où t'essayes de déchiffrer, il y a quand même une certaine logique par rapport aux pilules qui sont disponibles, alors on a joué qu'au niveau de base, mais où t'es là et tu dis, ah non, mais attends, là, ça peut pas être ce mot, parce que même si on n'arrive pas à dire ça, ça fait ci et ça, et bon, des fois, tu fais des paris, ça marche pas. Je crois que c'est Père Castor, il a fait... Il nous a fait une stratégie où il a mis des petits points entre le début et la fin du mot. Et ça marchait non, pas du tout. Parce qu'on disait, mais non, mais on a encore plein de possibilités. Et il s'est dit, ouais, moi je vais économiser du temps, mais ça marchait pas. Écoute, il a essayé une autre stratégie, mais ça, non valide. Mais ouais, si vous avez l'occasion, franchement, Ludo, en barrageux, sortez-le et vous passerez un bon moment, quoi. Mais ça va pas plus loin, comme pas mal. C'est bien dans la suite de ce que fait Romain Quatordien pour moi, quoi.
Et quelque part, tu vois, ils sont peut-être limite allés trop loin dans le développement du jeu, parce que est-ce que ces derniers niveaux, qui va y jouer sur Terre, déjà? Est-ce que quelqu'un va les réussir un jour? Parce que quand t'es vraiment en mode langue alien...
Oui, parce que des fois, t'as même des trucs en alien, ouais, c'est ça. Hein.
T'essaies de retranscrire tu vois, des formes, des j'en sais rien, enfin c'est... Pff, ouais, bon...
Moi, je suis content que le jeu existe, tu vois, mais bon, voilà, tu vois, ça ferait pas un jeu du mois ou quoi, mais par contre, ouais, j'ai passé un très bon mois à le découvrir, effectivement. Donc, c'était Docteur Gribouille de Romain Quatordien, illustré par Medidois, et chez Studio H, et c'est un jeu qui est a priori pas sur le nouveau site de la caverne, alors c'est peut-être une mise à jour, mais ça serait a priori autour de 17-20, entre 17 et 20 euros. Voilà pour Docteur Gribouille.
Alors de mon côté, je vais vous parler d'un proto qu'on a essayé là-bas, c'était chez la boîte de jeu, ça s'appelle Insurrection, mais alors le IO de Yon à la fin c'est 10, un 1 et un 0. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est vraiment je trouvais une dynamique très originale. Mécaniquement, ça va s'appuyer sur un principe un peu à la Fantasy Realms, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes dans notre main et on va à chaque tour, on va être obligé d'en échanger une, d'en jouer une en fait au milieu, qui éventuellement va faire un effet, et ensuite on va récupérer une de la rivière. Et donc on va se construire comme ça une main, sachant qu'on va aussi en piocher au début de chaque tour. Donc en fait, notre main, elle va grossir, la rivière aussi, elle va grossir. Donc il y a une espèce de truc comme ça inéluctable qui va faire que chaque manche, donc on va brosser un pion, on a un qui va dire combien on pioche de cartes, combien on rajoute dans la rivière. Quand le pion va arriver au bout de sa piste, on va regarder en gros si le mal ou le bien gagne. Savoir si le mal ou le bien gagne, en fait, c'est en fonction des cartes qu'on a jetées dans la rivière. En fait, les cartes qui sont présentes, qui sont visibles dans la rivière. En revanche, nous, notre score, ça va être par rapport à ce qu'on a dans notre main.
Okay. Okay,
donc du coup, tu vas jouer en même temps à essayer soit de faire gagner le bien, soit de faire gagner le mal, sachant que le mal peut gagner de façon anticipée dans la partie. Et en même temps, tu essaies de te construire ta main et tu te doutes bien que ta main,
oui.
Elle va faire des points d'une meilleure façon si le bien gagne ou d'une meilleure façon si le mal gagne. Sauf que les cartes bien, elles gagnent en bien, mais les cartes mal, elles gagnent en mal. Et donc, du coup, jouer une carte en mal, ça te fait quelque part perdre des points si t'en récupères pas une. Mais du coup, si t'en récupères une, en même temps, tu t'as pas trop fait avancer le mal, tu vois.
Ah ouais.
Il y a cette espèce de dynamique un peu chelou comme ça, dans laquelle tu peux... ça donne un peu une espèce de sensation de jouer un rôle caché, alors qu'en réalité, t'es pas en train d'incarner un rôle. Mais t'es dans cet esprit de se dire... Est-ce que je joue pour le bien, pour le mal? T'es dans un esprit des fois où tu dis « Ok, je vais jouer pour le mal. » Et en fait, ça se combine pas forcément très bien parce que les autres, d'un seul coup, ils sont tous en train de jouer pour le bien. Donc, du coup, tu retournes ta veste. Là, t'as cette capacité à éventuellement te retourner dans la partie. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Parce que si finalement, ça se retourne dans l'autre sens, tu seras bien content d'avoir été bien droit dans tes bottes du début à la fin. Et on a fait deux parties. Une partie à 5, une partie à 4. On a eu des dynamiques un petit peu différentes dans les deux. Avec quand même le mal qui a gagné dans les deux fois, alors que la deuxième fois, on s'y attendait pas. Il y a ce côté aussi ordre du jeu, parce qu'en fait quand tu joues une carte, elle a une initiative, donc on va tous jouer simultanément une carte, il y a un ordre d'initiative qui se fait, ce qui fait que tu peux penser jouer vite ou pas, et si tu joues vite, à partir du moment où en fait le mal gagne, s'il y a 10 symboles de corruption parmi les personnages au milieu, donc si toi tu joues une carte qui en rajoute 2 d'un coup, on était à 8, Bah, tu vois bien que bim, les autres ils ont même pas le temps de poser leurs cartes, et donc tu peux pas revenir en arrière si le mal gagne, par exemple. Toi, tu peux pas, les autres ils font.
Ouais, tu finis pas le tour de jeu, ouais.
Ouais, tu prends quand même une carte. Si tu prends quand même une carte, tu vas quand même échanger ta carte, mais du coup, trop tard, on dit que le mal gagne, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Tu peux pas enlever, en fait, tu peux pas enlever de la corruption. Du coup, t'es même limité dans le choix de ce que tu reprends en main. Tu peux pas dire, bah ok, du coup, je prends une carte qui incarne le mal, et du coup, elle va moment me faire des points, quoi, tu vois.
Ah
donc,
ouais.
c'est vraiment original, tu vois, dans cette dynamique-là. J'ai vraiment trouvé ça très chouette. Je suis curieux de voir si c'est. Bah, si c'est une expérience que je vais revivre pareil ou pas, plus tard. Tu vois, parce que là, je suis vraiment en mode, putain, c'est fou, je vois pas de jeu qui ressemble trop à ça. C'est pas du Fantasy Realms, pourtant, c'est un peu des systèmes de scoring. Les systèmes de scoring sont pas hyper intéressants, tu vois, ça se ressemble un petit peu, quoi. Les trucs se ressemblent un peu. Mais t'as quand même des cartes avec, une forte personnalité. T'as un leader que tu récupères au début, que tu peux jouer du coup, et que d'autres peuvent récupérer pour rejouer plus tard. Enfin bref, là il y a vraiment des dynamiques un peu chelou, quoi, parce qu'une carte elle finalement elle peut être jouée plusieurs fois par plusieurs personnes différentes. Et les cartes fortes, tu les joues, bah ouais, certes elles sont fortes, elles peuvent orienter un truc éventuellement, mais en même temps, du coup elles sont plus dans ta main, quoi. Et t'es vraiment tout le temps en mode, mais attends là, ce que je suis en train de faire c'est bien, c'est pas bien. C'est ouais, très déstabilisant comme jeu, et très chouette. On a vraiment voulu enchaîner une deuxième partie, quoi.
Ouais, bah ouais, ça a l'air cool et j'ai l'impression que t'es un peu tout le temps dans des situations paradoxales en fait. C'est un peu ça, c'est ah oui, mais là je vais alimenter tel camp, mais du coup ça me dévalorise en termes de points ou à l'inverse j'essaye
C'est
de
ça, je
prendre.
fais les affaires d'un autre en
Ouais, c'est
fait,
ça.
quoi. T'es en mode, je vais faire les affaires de quelqu'un d'autre.
Est-ce que y aurait genre une filiation avec zéro de Knizia, tu vois, dans le sens où tu alimentes comme ça des rivières qui vont servir à quelqu'un d'autre, mais en même temps, tu vois, où tu parce que dans zéro aussi, des fois comme ça, tu changes d'optique pour récupérer des trucs. Alors je sais pas, c'est peut-être un peu lointain en termes de comparaison, mais c'est plus ce que tu disais sur la fin là, sur la manière dont tu récupères des cartes, tu vois, et bon, dans Fantasy Realms aussi, t'as ça des fois où tu poses des cartes d'abord dans la rivière pour t'en débarrasser. Finalement, quelques tours plus tard, tu la reprends parce que tu te dis non, finalement, maintenant ça va bien quoi.
Ouais, bah tu te retrouves dans des situations comme ça parfois, ouais. Ouais, tu peux en tout cas.
Ok. Intéressant. Alors, ouais, moi j'aime bien ces jeux de paradoxe effectivement où en fait tu lâches un truc parce que ça t'arrange, mais en même temps, d'un autre côté, bah t'en perds certains bénéfices quoi, de manière
En tout cas,
générale quoi.
t'es pas en mode automatique déjà. Ça, t'es pas dans ta main, tu dis bah ouais, c'est cette carte-là qui est la plus forte, tu veux que je joue, c'est évident. T'as vraiment du choix. Et puis t'as ce côté où tout gonfle et c'est inéluctable. Tu sais, il y a vraiment ce côté un peu fatalité. Et puis l'air de rien, c'est con, mais ce côté le bien contre le mal qui s'affronte, t'es vraiment en mode ah les gars, mais attendez, on va quand même pas faire gagner le mal. Tu sais, il y a ces espèces de discussions un peu au-delà du jeu, toi, qui se crée un petit peu. Enfin, juste pour le. Tu sais, quand tu essaies d'orienter un peu de ton côté, tu vois, comment dire, c'est un contexte de. Le lore du jeu te permet d'amener ça comme un élément, finalement,
Mais que tu
d'argument.
retrouves dans les dynamiques aussi, quoi.
Bah, ouais, parce que tu vas aller chercher aussi un peu des partenaires autour de la table. Tu vas aller chercher des gens qui vont
Ce
essayer de jouer
que
contre.
t'as pas trop dans Marvel Remix ou Fantasy Realms, tu vois ça,
Bah non,
pas
tu peux
trop
pas avoir
Fantasy
ça.
Realms, tu vois.
Non.
Des fois, tu peux être emmerdé parce que quelqu'un a pris ta carte que tu voulais dans la rivière ou des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est quand même, tu fais ton système, mais jamais tu vas dire, ouais, vas-y, là, il faut que tu joues du noir ou des trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas tellement ce côté alliance temporaire et fausse parce qu'à la fin, tu es seul à gagner, mais qui crée en fait du verbal autour de la table, quoi, dans Fantasy Realms ou Marvel Remix, tu vois. T'es quand même assez silencieux, quoi, en
Et
général.
là, effectivement, tu peux aller chercher des partenaires de jeu. Mais il faut bien comprendre que c'est pas, enfin, à la fin, on n'est pas dans un camp. C'est pas le bien gagne contre le mal ou le mal gagne contre le bien. Il n'y a pas qu'un seul joueur ou qu'une seule joueuse qui va gagner, quoi. C'est juste un système de points. Non, c'est pas
Oui,
un
bien
jeu en
sûr, c'est
équipe.
pas un jeu en équipe.
Mais t'as quand même des espèces de dynamiques un peu d'équipe, un peu bancale, tu vois. Ça fait un peu, ça fait, tu sais, t'as l'impression d'incarner un sale type qui vraiment est en train de retourner sa veste pour essayer d'aller chercher ce qui est le mieux pour lui, vraiment, quoi. T'es vraiment dans ce délire-là qui est peut-être pas forcément facile à vivre, d'ailleurs, hein. Il y a peut-être des gens qui vont pas apprécier cet aspect-là. Moi j'aime bien, enfin, c'est le temps d'une partie, tu vois. C'est justement, le jeu permet de se mettre dans la peau d'un voyou, j'ai envie de dire. Et là c'est un peu ce que t'incarnes, quoi. Enfin, pas d'un voyou, mais
c'est
de...
C'est un peu comme, comme dans les jeux de train, en fait, de stockholding, tu vois, où tu prends des actions et où tu es tout le temps en train de te dire « Ouais, vas-y, il faut que tu prennes ça pour qu'on fasse avancer cette compagnie, cette entreprise. » Mais en même temps, à la fin, bah, en fait, tu espères faire mieux que les autres, que tes alliés, d'un jour, quoi. Et bah, en fait, tu t'allies avec eux, mais en espérant faire mieux qu'eux quand même, parce qu'à la fin, il n'y a qu'une seule personne qui gagne. Et t'as un peu ça, ouais, dans tous les jeux de train, là, de prise de part d'action, en fait,
complètement.
Quoi.
Voilà, donc l'Insurrection, je crois que c'est censé sortir en fin d'année, donc avec un 10 à la place du IO. Donc c'est un jeu de Tori Christian, illustré par Louis Génard. C'est pour 2 à 6 joueurs joueuses, à partir de 10 ans, 20 minutes de partie, et c'est chez la boîte de jeux. Voilà, a priori pour la rentrée, ils disent là sur internet, là j'ai vu rentrée 2025, je sais pas trop ce que ça veut dire. Vers les Essen par là sûrement.
Et a priori pas 3 à 2, je pense, vu ce que t'en disais.
Bah, je sais pas.
À voir.
Je sais pas. Je pense que c'est moins bien. Je pense qu'à partir de 4-5, c'est quand même plus sympa. Pour le. Tu sais, ne serait-ce que les dynamiques de discussion, quoi. De pseudo-équipe.
Ouais. Bah ouais, bien sûr. Ok. Bon, en tout cas. Bonne impression quand même sur des protos, c'est bien, tu vois. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait en allant à des boîtes et des jeux en se disant on va passer un bon moment. Mais, mais finalement.
Non, mais c'est clair qu'au final, c'est des protos qui sortent du lot là, dans ce qu'on a apprécié particulièrement. Après, bon, y a plein de choses qu'on avait vues ailleurs. Hein, du Toy Battle, par exemple, effectivement, c'était présenté. On l'avait vu avant, ailleurs. Voilà.
On en a fini avec les jeux. Hein, on a joué à d'autres jeux, mais c'est ceux qu'on voulait vraiment mettre en avant, qu'on les ait aimés ou non, peu importe, c'était pas ça l'essentiel, c'est des choses sur lesquelles on avait des choses à dire. On va faire un big up quand même à des personnes qu'on a pu croiser sur le festival. Alors toi qui ont été tes partenaires de jeu pendant que j'ai animé ma table.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, en particulier Ophélie, avec qui j'ai fait pas mal de parties, l'air de rien. Hein. Voilà, elle m'a battu à plat de couture sur Leaders, par exemple.
Bravo. Ouais, moi, sur ma table, bah du coup, il y a des gens qui sont passés à la table proxy jeu, genre en import, pour passer, pour dire bonjour, pour remercier pour le travail de proxy jeu de manière générale. Donc, merci à toutes les personnes qui sont passées et dont j'ai pas les pseudos ou les noms. Mais donc, ouais, il y a Ophélie, il y a Aldebaran aussi qui a fait quelques jeux sur la table et avec qui on a pu discuter. Calamity Fame également, avec qui on a pu causer. Donc, des big up à vous. Et puis, d'autres amis, hein, Jimmy Celtics qui était dans le coin avec des potes, etc. Mais rien d'autre à rajouter, Cyrus, ou tu voulais...
Bon, non. Écoute, encore merci pour l'accueil sur Strasbourg. C'était un week-end très sympa.
Bah, avec plaisir. Merci à Jimmy Celtics pour les cookies qui nous a ramené le samedi.
Les fameux que tu m'avais promis que j'ai pas eu le vendredi.
Le vendredi à ton arrivée et tout, trop tard. Mais et puis merci du coup à moi, à titre perso, hein, à des Brettes et des Jeux pour la table qui m'a permis d'animer. Et puis on espère que ça se reconduira. J'espère que au niveau des chiffres, qu'on n'a toujours pas, enfin des nombres, du coup c'est des nombres je pense. Mais c'est vrai qu'on dit tout le temps au niveau des chiffres. Hein, quand on parle.
Ouais, mais un nombre, il y a des chiffres dedans. Donc bon.
C'est vrai. Ouais. Donc j'espère que ça suffira pour réorganiser le même lieu. Moi j'aimais bien le lieu. C'est vrai que c'est un peu plus excentré que la salle de la bourse quand même. Hein. Y a une ligne directe depuis la gare avec le tram et tout. Mais c'est pas central. Donc, en espérant que ce soit le début d'une nouvelle ère de des bretzels et des jeux.
Complètement. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, que vous ayez aimé cette émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeux avec un x. Voilà, on mettra les références vers les jeux dont on a parlé, et puis éventuellement peut-être quelques liens vers la page Facebook des modèles et des jeux, ce genre de choses, comme ça vous pourrez être tenu au courant de l'édition 2026, si elle a bien lieu. Vous pouvez nous contacter sur X, sur Mastodon, sur Blue Sky, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi parler avec nous sur Discord. Voilà, pour rejoindre notre Discord, vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site. Vous pouvez également nous faire un don pour rejoindre les donateurs et donatrices du podcast. Ça, pareil, les infos sont sur la page d'accueil du site. C'est l'été. Donc vous le voyez là, c'est un format un peu particulier, hein, hors série. Il y en aura peut-être d'autres, voilà, donc on se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour un autre format. Et en attendant, jouez bien.